Ouvrir votre Bible dans l'évangile de Jean chapitre 6 et nous allons lire tout simplement le verset 7. L'école du dimanche. Les enfants peuvent partir. C'est la première fois que Vera enseigne l'école de dimanche. C'est un grand jour pour elle. Nous allons prier pour elle. Notre bon Père, nous voulons demander que tu sois vraiment avec Vera aujourd'hui, alors qu'elle doit enseigner à ses propres enfants dans l'école de dimanche. Nous prions que tu l'assistes très palpablement, très concrètement, et que tu bénisses ce moment que les enfants passent autour de ta parole. Amen. Nous lisons donc dans l'évangile de Jean, le 16e chapitre, et je pense que je vais quand même vous lire les versets 1 à 6 pour avoir le contexte, et le verset 7 est donc le sujet de notre méditation ce matin. Jean 16, 1. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. Jésus vient d'énumérer des souffrances que ses disciples auront maintenant qu'il va partir et que le monde va les haïr. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pensera offrir un culte à Dieu. Et ils feront cela parce qu'ils n'ont pas connu le Père, ni moi. Je vous ai parlé ainsi pour que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement parce que j'étais avec vous. Donc ils ne vont pas être ébranlés de voir ce qui arrive parce qu'ils se souviendront de ces paroles de Jésus et qu'il avait divinement prédit et qui sont dans la prophétie de Jésus lorsque ces choses leur arrivent. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et nul de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Avez-vous jamais vu quelqu'un tellement triste qui ne peut même pas poser une question au sujet de la chose dramatique. Il est juste paralysé. Il n'arrive même pas à lui poser la question. La tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Dans cette heure, les disciples sont autour du Seigneur. Cette heure, cette nuit avant sa crucifixion. Et c'est cette nuit là que le Seigneur ouvre son cœur au plus grand et explique des choses qu'il n'avait pas expliquées. C'est le moment de le faire. Même dans notre texte, il dit que ces choses, je ne vous ai pas dit avant. Je ne pouvais pas, je ne devais pas vous les dire. Mais maintenant, il y a entre autres, la promesse explicite du Saint-Esprit. Pour la première fois, il est étonnant combien peu le Seigneur Jésus, dans les quatre évangiles, parle du Saint-Esprit. Mais il est complètement logique, parce que quand il en parle, vous vous rappelez ce jour de fête, lorsqu'il s'était crié et qu'il a dit Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, comme l'Écriture dit, celui qui croit en moi, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Et c'est Jean qui doit expliquer dans son évangile, parce que Jésus ne nomme pas le Saint-Esprit. Il ne parle qu'en image, même quand il en parle. Il ne parle que de fleuves d'eau vive. Alors Jean doit dire ceci, il a dit au sujet du Saint-Esprit que ceux qui croyaient en lui devaient recevoir. Mais Jésus n'en parle pas explicitement, parce que, comme Jean le dit, mais le Saint-Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Saint-Esprit pas donné, parce que Jésus n'était pas glorifié. Le Consolateur ne viendra pas vers vous si je ne pars pas. Si je pars, je vous l'enverrai. Et pourtant, même si Jésus parle peu du Saint-Esprit, la première fois que le Seigneur Jésus est présenté au monde par Jean-Baptiste, il dit, celui-ci, c'est celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Il est présenté comme celui qui va venir pour inonder, pour vous inonder de Dieu l'Esprit lui-même. Et donc, dans ce jour de Pentecôte est arrivé le moment où Jésus a promis, disant quelques jours avant, dans le livre des Actes, dans peu de jours, vous verrez réaliser ce qui a été dit, que Jean baptisait d'eau, mais en peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, nous voulons comprendre un peu quelque chose de cette venue du Saint-Esprit aujourd'hui. Et qu'est-ce que le Seigneur, notamment, nous explique dans ce verset 7. Maintenant, il dit, cependant, je vous le dis la vérité. Il est obligé de nous dire, de leur dire, avant son affirmation, ce que je vais vous dire, c'est la vérité. Dans le grec, le je est en position d'emphase. Moi, je vous dis la vérité dans ce qui suit. Parce que c'est tellement étonnant ce qu'il dit que nous avons même 2000 ans plus tard de la peine à croire que ce soit vrai. Car il dit, il est avantageux pour vous que je parte. Comment est-ce possible que cela soit véritablement, parfaitement et réellement vrai? Et c'est ça que nous voulons comprendre. Comment, combien est grand le don du Saint-Esprit? Ça, c'est le premier point. Combien est grand le don du Saint-Esprit? Il est grand jusqu'au point de valoir mieux que la présence physique du Fils de Dieu avec nous. Ça ne veut pas dire qu'il aurait mieux valu avoir l'Esprit sans que jamais Jésus vienne physiquement. Ça n'aurait pas été possible de toute façon. Mais il est en train de dire aux disciples, m'ayant eu avec vous comme la révélation de Dieu et le salut de Dieu, et ayant vu en moi la venue du royaume, il est maintenant que vous m'avez eu pour ce temps. Il est maintenant avantageux que vous ayez le Saint-Esprit dedans que de continuer à avoir moi à côté. Nous lisons Nous voulons comprendre parce qu'il y a une perte et un gain, n'est-ce pas, dans ce départ de Jésus. Et dans la perte, il y a gain. Et nous voulons comprendre pourquoi. D'abord, si vous tournez la page en Jean 14, versets 16 et 17, nous lisons ceci. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui sera éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et il sera en vous. Et voilà le changement que Jésus va effectuer maintenant avec ce don, cet envoi, cette venue du Saint-Esprit. Il dit qu'il est avec vous, mais il sera en vous. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a aucun sens dans lequel le Saint-Esprit était en eux. Jésus utilise des termes absolus pour essayer de faire comprendre une différence énorme. Mais ces hommes n'auraient pas pu croire si le Saint-Esprit ne les avait pas régénérés. Les apôtres avaient l'Esprit de Dieu, mais n'avaient pas l'Esprit de Dieu dans sa présence plénière. C'est un peu comme quelqu'un qui est venu dans ta maison, mais qui ne s'exprime pas beaucoup. N'est-ce pas? Il est là, mais à un moment donné, tu peux lui dire, maintenant la maison, c'est ta maison. Et alors, fais tout ce que tu veux, parle comme tu veux, agis comme tu veux. Et maintenant, la maison est remplie de l'expression de sa présence. Il décore comme il veut, il remplit cette maison de ses chants parce qu'il aime chanter ou il prend possession. Et il y a une plus grande mesure de la présence active de l'Esprit qui va venir. Et Jésus peut l'expliquer en disant, jusqu'ici, l'Esprit a été avec vous, mais il sera en vous. Un grand changement. Peut-être ces mots, il est avec vous, font allusion aussi au fait que Jésus leur dit dans ce passage, vous le connaissez, le Saint-Esprit. Le monde ne le connaît pas et ne l'a pas vu. Mais il dit, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous. Comment? Mais bien sûr, c'est la personne de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus un jour à la synagogue, parce qu'il m'a roint pour. Et puis il explique tout son ministère. Jésus est l'homme par excellence, imbu, rempli, animé, dirigé par l'Esprit de Dieu. L'homme rempli de l'Esprit. Et en vivant avec lui, les disciples avaient l'Esprit de Dieu avec eux. Et ils connaissaient comment il est cet Esprit, parce que c'est cet Esprit qui animait le Seigneur Jésus. Mais maintenant, ce même Esprit sera en eux, comme il a été en lui. Sauf que Jésus avait l'esprit sans mesure et nous avons l'esprit par mesure. Donc le Seigneur est en train de dire que l'esprit sera en nous et qu'il va nous exproprier comme sa demeure. C'est difficile de réaliser, et toute notre vie chrétienne, nous tentons de comprendre comment est-ce possible, comment vivre cette réalité que je ne suis plus à moi-même, dit 1 Corinthiens chapitre 6, mais je suis le temple, la maison du Saint-Esprit que j'ai de la part de Dieu. Et Paul doit dire aux Corinthiens qui pêchent sur le plan sexuel, ne savez-vous pas? Parce qu'on peut être chrétien et ne pas vivre comme un chrétien. Parce que, précisément, on n'est pas en train de vivre dans cette conscience et cette foi de ce que ça veut dire que d'être la propriété et le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui habite en vous, glorifié de Dieu dans votre corps? Donc, Jésus parle de ce grand changement et vous pouvez comprendre comment c'est un avantage parce que vous avez vu en lisant les évangiles que pendant ces 3 ans, les disciples ont carrément Jésus avec eux, mais ça ne suffit pas parce qu'ils sont quand même constamment en train de ne pas croire, en train de se disputer qui est le plus grand parmi nous. En train d'aller dans le sens contraire de ce que Jésus leur enseigne. Constamment dans les évangiles, Jésus avec nous ne suffit pas parce que ce qu'il nous faut, c'est Dieu en nous, dans le tréfonds de notre cœur, pour changer, illuminer l'intelligence, pour créer, fortifier la foi pour ramener le cœur vers la sainteté, l'amour et la paix et la fidélité, pour faire en nous ce qui ne peut pas être fait en dehors de nous. Et c'est comme ce passage que nous avons lu en Ézéchiel 37, c'est puissant, c'est un vent qui vient le jour de la Pentecôte. Un bruit de vent impétueux, c'est un vent qui vient soulever cette armée pour nous indiquer que le Consolateur est aussi l'esprit de puissance qui change et bouleverse lorsque il nous amène à nous donner à lui de plus en plus. Donc voilà une nouvelle sorte de vie avec Dieu qui va commencer. Et c'est avantageux pour nous que l'esprit soit au-dedans. Maintenant, quand Jésus était là, s'il était à Béthanie, personne à Jérusalem ne pouvait profiter de la présence palpable du Seigneur. Parce que dans son corps, Jésus était dans un lieu à la fois. Mais maintenant, par son esprit, Jésus va être en nous, tout le temps, en tout lieu. L'Esprit de Dieu, mystérieusement, fait habiter en nous le Christ. Il est l'Esprit du Christ. Sa présence amène le Seigneur et tout son salut au fond de nous, là où ça doit l'être. Donc voilà pour la grandeur de la promesse. Maintenant, comment est-ce que le don du Saint-Esprit nous est donné? Par quel mécanisme, par quel mérite et par quelle méthode avons-nous l'Esprit? Il y a beaucoup de confusion dans l'Église évangélique à ce sujet. Mais sans aller dans tous les détails, nous voyons que Jésus dit dans notre verset 7 du chapitre 16, cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il y a une condition pour que vous ayez l'Esprit, une condition qui doit être remplie. Et cette condition, ce n'est pas vous qui remplissez. Il y a des gens qui disent, pour avoir l'esprit, pour avoir la plénitude de l'esprit, il faut arriver à une consécration totale. Parce que c'est l'homme qui remplit certaines conditions. Il faut te purifier, il faut prier, il faut... En fait, vous ne pouvez pas prier sans l'esprit. Vous ne pouvez pas vous consacrer, à moins que ce soit l'esprit déjà à l'œuvre. Tout est à l'envers. C'est l'homme qui remplit les conditions. Mais la Bible nous dit que Ce n'est pas ma consécration qui m'obtient l'esprit, c'est la consécration de Jésus-Christ qui se donne complètement sur la croix. Lisons ensemble dans le livre de Galates et vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi Jésus dit le consolateur ne peut pas venir sans que je m'en aille. Et rappelez-vous bien, les amis, que je m'en aille dans la bouche de Jésus signifie le calvaire. Signifie le calvaire. Ok? Je m'en vais par la croix et l'expiation et la résurrection et la glorification. Et sans cette œuvre-là, sans cet accomplissement qui vous gagne l'esprit, vous ne pouvez pas avoir l'esprit de Dieu. C'est Christ. Il est tout comme le Fils est un don immérité du Père, l'Esprit est un don immérité du Fils. D'accord? On parle du don du Saint-Esprit. Je vous l'enverrai. Donc nous lisons au Galates chapitre 3 ces paroles dans les versets. Je vais vous lire le verset 2 et puis 13 et 14. Le verset 2, les Galates commencent à penser que c'est par leur obéissance qu'ils obtiennent de plus en plus l'esprit, en étant de bons chrétiens. Et Paul dit au verset 2, « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'esprit, donc au début, ou en écoutant avec foi? C'est par ce que vous faites ou par ce qu'il a fait que vous avez cru? » N'est-ce pas? Et si vous voulez, deux versets plus loin, verset 5, fin de verset 4. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez avec foi? C'est-à-dire, vous écoutez et croyez à ce que Christ a fait ou bien parce que vous avez fait quelque chose. Et maintenant, les versets clés, 13 et 14. Nous lisons. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, Maudit soit quiconque est pendu au bois. Afin que, pourquoi est-ce que Jésus meurt? Une des raisons, c'est afin que pour les païens, comme nous, la bénédiction d'Abraham, c'est-à-dire la justification, se trouve en Jésus-Christ, et par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Christ nous a obtenu la promesse de l'Esprit par ses mérites. Ce n'est pas parce que nous sommes de bons chrétiens. Et c'est cela que vous avez entendu tout à l'heure dans la lecture que les deux garçons vous ont fait sur la Pentecôte. Et nous revenons à Acte 2, juste pour lire deux versets, si vous voulez. Acte 2. Je vais quand même vous remettre dans le contexte. Donc, l'Esprit est venu de manière miraculeuse. Ces hommes parlent dans des langues qui ne sont pas les leurs. Il est évident que l'Esprit puissant de Dieu est présent. Et les gens posent une question. Et le reste du chapitre, c'est la réponse à cette question. Vous avez remarqué la question au verset 12. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Expliquez-nous ce qui se passe, comment et pourquoi cela arrive. Alors, verset 14, alors Pierre, debout avec les 11, élevait la voix et s'exprima en ces termes. Il dit, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles, et puis il va expliquer ce que ça veut dire. Et à la fin de son explication, ayant dit que c'est la réalisation de ce que Joël, le prophète, a promis, il dit ceci. Il dit au verset 29, Frères, qu'il me soit permis de vous dire franchement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, etc. Et verset 32, Ce Jésus que vous avez crucifié, il avait dit tout à l'heure, Et ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, regardez bien ce verset, élevé par la droite de Dieu, il, Jésus, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. C'est pas nous qui recevons de Dieu le Père le Saint-Esprit parce que nous avons été ceci ou parce que nous avons été cela. C'est Jésus qui reçoit tout le don du Saint-Esprit. C'est lui seul qui obtient par sa mort le don du Saint-Esprit pour tout le peuple chrétien et ensuite il déverse don le jour de la Pentecôte. Le don du Saint-Esprit est gagné au prix du sang de Dieu le Fils. Ne pensez jamais que vous allez obtenir quoi que ce soit de la puissance du Saint-Esprit par vos moyens. Il a fallu la croix de Jésus-Christ pour vous obtenir l'Esprit. Maintenant, quand nous relisons notre verset du jour, nous comprenons mieux. Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. C'est un don tellement immense. C'est un don que vous ne méritez pas tellement pas d'avoir. Que si je ne meurs pas sur une croix, et si je ne ressuscite pas, et si je ne reçois pas moi cette récompense de la part du Père, vous ne l'aurez jamais. Mais si je pars par la croix et la résurrection, je vous l'enverrai. Cela répond à notre deuxième question. Nous avons vu la grandeur du don, nous avons vu le moyen par lequel Dieu nous donne ce don, et nous terminons avec qu'est-ce que ce don? Qu'est-ce que le Saint-Esprit pour vous et pour moi? Je dois avouer que c'est un domaine de la vie chrétienne où je tâche de grandir, mais je suis assez immature. Ma relation avec le Saint-Esprit. Je ne sais pas pour vous comment vous décririez votre relation avec le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, votre consolateur, l'Esprit de vérité. Mais j'ai besoin de comprendre mieux, d'avoir une relation avec lui qui est basée sur une bonne compréhension et sur le fait que je l'embrasse tel qu'il m'est donné et que je m'appuie sur lui tel qu'il m'est offert. Alors, qui est-il pour nous? D'abord, Jésus nous dit que c'est le consolateur. Dans ce passage, il dit, si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais revenez en arrière parce qu'au chapitre 14 et au verset 16 et 17, il utilise ce terme pour la première fois. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui sera éternellement avec vous. Alors vous savez probablement que le mot consolateur est en fait le mot paraclète. Paraclète en grec qui est impossible à traduire en français, en anglais et probablement en allemand et en arabe aussi. Donc, le mot signifie quelqu'un qui est appelé à venir pour être à tes côtés, pour être avec toi. Et ce mot a un peu deux facettes. Une facette qui est représentée par le mot avocat, et parfois on traduit paraclète avocat, 1 Jean chapitre 2, Jésus est notre paraclète aussi, et on traduit ça avocat. Donc parfois c'est quelqu'un qui nous défend, un défenseur de nos droits, de notre personne. Et parfois c'est un consolateur, mais pas dans le sens faible du mot français. Consoler, moi je veux dire plus un réconfortateur, si on peut le dire, mais pas non plus dans le sens faible du mot. Oh, je suis triste, réconforte-moi, mais dans le sens fort de réconforte-moi. Parce que ce mot, ce terme signifie celui qui vient fortifier, qui vient soutenir. C'est pas simplement d'essuyer nos larmes. Le paraclète a plus faire avec quelqu'un qui, non pas est dans son coin en train de pleurer, mais qui est en train d'agir dans la vie et qui a besoin de force, de soutien de quelqu'un qui vient aider, assister. Et donc, il est notre paraclète en ce sens. Il console aussi. Parce que, bien sûr, lorsque nous sommes dans la détresse, la force dont on a besoin, c'est l'encouragement, c'est la consolation, c'est la sympathie. Donc, cela fait partie. Mais on ne doit jamais réduire le paraclète à cela. Il est celui qui est appelé à être toujours, éternellement, dans tout ce que vous faites, pas une seconde, pas une situation, pas un moment de la vie chrétienne où vous soyez laissé à vous-même, où la vie chrétienne soit pour vous un truc de solo, un vol en solo. Jamais, jamais vous ne levez aucun fardeau de la vie chrétienne sans qu'il vous lève et le lève avec vous. Ça, c'est le bonheur. Ça, c'est la bonne nouvelle du don du Saint-Esprit, qu'il soit avec nous dans ce sens éternellement. Et lorsque Jésus dit, le Père vous donnera un autre consolateur, pourquoi dit autre consolateur? Jésus est en train de dire, j'ai été pour vous jusqu'ici le paraclète. J'ai été celui qui t'est appelé à être pour vous, avec vous. Votre soutien. Et maintenant, je vais vous donner un autre qui est exactement comme moi et qui va faire exactement comme j'ai fait pour vous, mais d'une manière intérieure et plus plénière. Donc, il est le paraclète, mais il est aussi pour vous l'esprit de vérité. Parce que vous avez vu dans le chapitre 14 et verset 26. Jésus dit ceci, et je me dépêche pour arriver à la fin, mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et qui vous rappellera tout ce que j'ai dit. Et dans le chapitre 16, où nous sommes un peu plus loin dans le verset 13, quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. C'est important pour vous de savoir que l'Esprit est avec vous comme l'Esprit de vérité. Parce que cet attribut de vérité lie le don de Dieu, le don du Saint-Esprit, avec vos besoins les plus profonds. Et avec les desseins les plus élevés de Dieu. La vérité de ses desseins glorieux, vos besoins les plus profonds en tant qu'humain et pécheur et chrétien, l'esprit de vérité va vous éclairer et vous montrer ce qu'il en est de vous-même, de Dieu. Vous savez que quand nous sommes dans la détresse, le réconfort vient par l'enseignement, le plus souvent, vient par la vérité, vient par quelque chose qui est vrai et qui est plus grand que notre détresse qui nous inonde souvent. Le réconfort n'est jamais juste un zapping mystique, mais c'est une application de la vérité que nous voyons que Dieu est infiniment grand que nos problèmes. Infiniment souverain, qu'il a ça, oui, même ça dans sa main, cette chose-là. Et l'Esprit de Dieu applique puissamment la vérité pour nous faire vivre dans une réalité qui ne peut être bonne, parce que nous sommes un peuple qui vit dans la main de Dieu. Il dit que l'Esprit nous conduira dans toute la vérité. dans toute la vérité. La promesse est très large. Et donc, vous êtes à l'école et constamment, l'Esprit de Dieu est en train de vous amener plus en plus à saisir la vérité, pas simplement des nouvelles vérités, mais à saisir mieux les vérités que vous connaissez déjà et à entrer dedans. Il faut vous faire entrer dans la vérité comme une réalité. Quelle bénédiction pour vous. Que la vérité d'une vie chrétienne joyeuse et réelle ne reste pas juste un idéal. La fonction de l'Esprit Saint, c'est de incarner par sa puissance cette vie en nous. Je dirais juste une dernière chose, et c'est dans le chapitre 16 que nous avons lu, ces versets 13 à 15. Jésus dit au verset 14, lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi. À mon sens, c'est la phrase la plus importante de toute la Bible au sujet du Saint-Esprit. Lui, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera, mieux, il vous le communiquera. C'est-à-dire, il va pas simplement vous parler de ça, mais il va vous faire participer à cela. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit, il prendra ce qui est à moi et vous le communiquera. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'a pas d'autre mission que d'appliquer ce que Jésus a accompli. Écoutez-moi bien, il y a un gros problème dans l'Église évangélique. Dans beaucoup de milieux, on sépare la vie chrétienne en deux parties. Il y a ce que Jésus a accompli pour que je sois pardonné. Et une fois j'ai ça, je laisse ça un peu derrière. Et il y a maintenant le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Et tout ce qu'il va faire dans ma vie existentielle. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Le Saint-Esprit n'a pas de mission différente. Une seconde mission après la première de Jésus. La mission du Saint-Esprit, c'est seulement de prendre ce que Jésus a accompli et de nous faire goûter et participer à cela. Donc tout l'accomplissement de notre salut a été entreposé dans les mains du Sauveur, l'accomplissement du salut, et l'application du salut a été entreposée dans les mains du Saint-Esprit. C'est un seul et même salut. Le Saint-Esprit n'aurait pu rien faire si Jésus n'avait pas accompli son œuvre. Et le Saint-Esprit, dans un sens, il prend tout simplement ce qui existe dans l'homme glorifié, le Fils de Dieu, maintenant perfectionné et glorifié. Il a obtenu pour son humanité et notre humanité ce qu'il est maintenant à la droite de Dieu. Et le Saint-Esprit prend des richesses de Christ et nous les communique. C'est tout ce qu'il fait. Il prendra de ce qui est à moi et vous le fera vivre. Donc, cela veut dire que si nous voulons vivre avec le Saint-Esprit, nous devons avoir le Christ et son œuvre de salut au centre. Jésus-Christ au centre. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de Jésus. Application. Qu'est-ce que nous avons besoin de faire pour changer? Je crois que vous et moi, nous avons sans doute besoin de vivre plus en nous voyant comme dans une situation incroyablement avantageuse. C'est avantageux pour vous. Nous devons nous dire tous les jours que mon lot dans cette vie chrétienne avec Dieu l'Esprit en moi, c'est mieux que si Jésus était avec moi. Pour prendre un peu la mesure de ce que nous avons et pour que notre attente s'élève un peu. Nous nous complaisons avec tellement peu dans la vie chrétienne. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Pour Paul, c'est étonnant. Et nous devons un peu plus croire cela. Nous devons penser tous les jours, je pense que mon identité, c'est que je suis la demeure intime de Dieu l'Esprit. Que par lui, le Père et le Fils aussi demeurent en moi. Et que le vrai moi maintenant et Jésus-Christ par l'œuvre de l'Esprit sont unis. Nous en lui et lui en nous. Et que le Saint-Esprit n'est pas un étranger dans ce corps qui est vous. Il n'est pas un étranger. Il n'est pas un visiteur. C'est sa maison. C'est sa maison. Il est tout à fait chez lui, en vous. Et vous devez vivre de manière à expérimenter cela. Comment? En refusant d'attrister le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Rappelez-vous avant de faire cette chose qu'il est là. Tellement heureux d'habiter en vous et participant de vos actes. Enfin, au moins, pas participant de vos péchés, mais il est présent, et même quand vous péchez, ça l'affecte, ça l'attriste. Vous devez aussi marcher par l'esprit, garder le pas avec l'esprit, Paul dit. C'est-à-dire l'esprit de Dieu, il est là dans ta vie, il est en train de vous parler, il vous parle. Parfois, vous avez eu envie de prier. Et vous avez certaines des désirs de l'esprit, Paul les appelle. Ne réagis tout de suite lorsque l'esprit de Dieu est en mouvement en vous, lorsqu'il vous donne des désirs saints. Suis, garde le pas avec lui. Marche par l'esprit. Et comme Paul dit, soyez remplis de l'esprit. C'est difficile d'obéir à un commandement passif. Comme si je disais, soyez, je disais à Ayrton, soyez élevé par Andrés. Comment est-ce que je peux donner ce commandement à Ayrton, petit Ayrton? Soyez élevé par Andrés. La seule possibilité que je puisse donner ce commandement à Ayrton, c'est que Andrés soit déjà en train d'essayer de l'élever. En ce moment, ça a du sens. Laissez-vous élever par Andrés. N'est-ce pas? Et lorsque Dieu vous dit, soyez remplis de l'Esprit, et ça signifie en grec, soyez toujours en train d'être remplis de l'Esprit, ça sous-entend que l'Esprit est déjà en train de tâcher de vous remplir. Parce que nous, les chrétiens, on agit comme si, ah, oh, si seulement je pouvais convaincre le Saint-Esprit de me remplir. Si je pouvais convaincre le Saint-Esprit de me donner sa plénitude. C'est exactement le contraire. L'Esprit de Dieu est en train de vous remplir. Laissez-le. Laissez-le. Croyez dans sa présence actuelle et dans son œuvre dans votre vie. Et nous avons besoin de nous reposer un peu plus, de nous relaxer un peu plus, en sachant qu'il est à l'œuvre, et lui dire tout simplement, vas-y, fais-y, complètement avec moi. Que le Seigneur nous aide donc à vivre la réalité de ce don du Saint-Esprit qui est en nous, le Paraclète, notre Consolateur et l'Esprit de vérité. Nous allons terminer notre culte. Dans le chant, dans le recueil, le chant numéro 1, là, nous aurons juste un moment.